Chapitre 65. Ce qu'elle a vu. Cinq étages sous la partie la plus moderne du commissariat, un espace composé de deux appartements, huit chambres et deux dortoirs a été aménagé pour servir de logement sécurisé à la direction de la police en cas de situation de crise, état d'urgence ou catastrophe naturelle. Depuis une dizaine d'années, les chambres sont également utilisées pour la protection des témoins en cas de menace exceptionnelle. Pénélope Fernandez est allongée sur un lit d'hôpital et ressent de légers fourmillements le long de son bras lorsque le rythme de perfusion s'accélère. C'est pour vous réhydrater. On vous donne également des compléments nutritionnels, explique le médecin Daniela Richards. Elle lui décrit d'une voix douce ce qu'elle fait, tandis qu'elle scotche un cathéter dans le pli de son bras. Les plaies de Pénélope ont été nettoyées et pansées. Son pied gauche est recouvert d'un bandage, les nombreuses égratignures dans son dos ont également été pansées, et l'entaille profonde sur sa hanche a été recousue de 8 points de suture. « Je vous donnerai bien un peu de morphine pour la douleur. »« Maman, » chuchote Pénélope en s'humectant les lèvres. « Je veux parler avec maman. »« Je comprends, » répond Daniela. « Je vais m'en occuper. » De grosses larmes coulent sur ses joues et jusque dans ses cheveux et ses oreilles. Elle entend le médecin demander à une infirmière de préparer une injection de 0,5 ml de morphine scopolamine. La pièce ressemble à une chambre d'hôpital ordinaire, mais paraît un peu plus douillette. Un bouquet de fleurs est posé sur la table de chevet et des tableaux aux teintes claires sont accrochés sur les murs jaunes. Une étagère en bouleau est remplie de livres déjà lus. La pièce n'a pas de fenêtre, mais une lampe allumée derrière une draperie ressemblant à un rideau atténue un peu l'impression d'être enfermée dans un bunker. Daniela Richards explique gentiment à Pénélope qu'ils vont la laisser se reposer, mais qu'elle peut appuyer sur le bouton d'appel si elle a besoin de quoi que ce soit. « Il y a toujours quelqu'un si vous voulez poser une question ou simplement avoir un peu de compagnie. » Une fois seule dans la chambre claire, Pénélope ferme les yeux. La morphine se diffuse dans son corps et l'entraîne peu à peu vers un doux sommeil. On entend un léger craquement lorsqu'une femme en niqab noir détruit les deux petites figurines en terre séchée. Une fille et son petit frère se réduisent en poussière sous sa sandale. La femme voilée porte un lourd sac de céréales sur son dos et ne remarque pas ce qu'elle a fait. Deux garçons sifflent et rient. Ils crient que les enfants esclaves sont morts et qu'il ne reste plus que des nourrissons. Tous les fours doivent mourir. Pénélope tente de chasser les images de Kouboum de ses pensées. Avant de s'endormir, elle éprouve l'espace d'un instant, la sensation que des tonnes de pierres, de terre et de béton sont déversées sur elle, comme si elle s'enfonçait toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Pénélope Fernandez se réveille. La morphine a engourdi son corps et elle n'a pas le courage d'ouvrir les yeux. Elle se souvient qu'elle se trouve dans une chambre sécurisée sous le commissariat. Elle n'a plus besoin de fuir. Le soulagement qu'elle ressent un instant fait rapidement place à une immense vague de douleur et de chagrin. Elle ignore combien de temps elle s'est endormie, se dit qu'elle pourrait facilement replonger dans un profond sommeil, mais ouvre pourtant les yeux. La chambre souterraine est plongée dans le noir. Elle cligne des yeux, mais cela n'y change rien. Le bouton d'appel n'est pas allumé. Ce doit être une coupure de courant. Elle réprime un cri lorsque soudain elle entend le cliquetis de la porte. Elle fixe l'obscurité. Son sang bourdonne dans ses oreilles. Elle ressent des picotements sur sa peau. Chacun de ses muscles semble se tendre. Quelqu'un touche ses cheveux, presque imperceptiblement. Elle se fige et sent une présence à ses côtés. On lui caresse les cheveux tout doucement. Des doigts s'enlacent dans ses boucles. Elle s'apprête à réciter une prière, lorsque la personne à son chevet agrippe ses cheveux et la traîne hors du lit. Elle hurle lorsqu'il la projette contre le mur en fracassant un tableau et en arrachant sa perfusion. Elle gît à terre, entourée de débris de verre. Il la maintient toujours par les cheveux, la traîne jusqu'au lit, la retourne et cogne sa tête contre le montant. Puis, il saisit son couteau à lame noire. Pénélope se réveille en tombant au sol. La porte s'ouvre et une infirmière accourt. Toutes les lampes sont allumées, et Pénélope comprend qu'elle a fait un cauchemar. Elle l'aide à se remettre dans le lit et lui parle d'une voix apaisante. Puis elle remonte les barres latérales du lit pour l'empêcher de retomber. La sueur sur son corps finit par s'évaporer. Elle n'arrive plus à bouger et des frissons parcourent ses bras. Allongée sur le dos, elle fixe le plafond en maintenant fermement le bouton d'appel dans sa main. On frappe à la porte. Une jeune femme entre dans la pièce. Elle a des rubans de couleur tressés dans ses longs cheveux. Son regard est à la fois doux et grave. Derrière elle se tient un homme aux cheveux blonds ébouriffés et au visage aimable. « Je m'appelle Saga Bauer. Je suis de la sûreté. Voici mon collègue, Yona Lina, de la Rikskriminalen. » Pénélope les observe sans bouger. Après quelques secondes, elle baisse les yeux sur ses bras pansés, ses égratignures, ses bleus et le cathéter fixé dans le pli de son bras. « Nous sommes navrés de tout ce qui vous est arrivé ces derniers jours, et nous comprendrions si vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille. Mais nous devrons vous interroger dans les jours prochains, et nous sommes dans l'obligation de vous poser les premières questions dès maintenant. » Saga Bauer s'installe sur une chaise près du lit. « Il me cherche encore, n'est-ce pas ?» demande Pénélope après un moment. « Vous êtes en sécurité ici, » répond Saga. « Dites-moi qu'il est mort. Pénélope, nous devons... « Vous n'avez pas pu l'arrêter, » dit-elle faiblement. « Nous allons la voir, je vous le promets, » dit Saga. « Mais vous devez nous aider. » Pénélope soupire profondément et ferme les yeux. « Ceci va être éprouvant pour vous, mais nous devons obtenir des réponses à nos questions, » poursuit Saga. « Est-ce que vous savez pourquoi tout cela a commencé ?»« Demandez à Björn, » marmonne-t-elle. « Il le sait peut-être. » « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Je vous ai dit de poser la question à Björn, » chuchote Pénélope en ouvrant lentement les yeux. « Demandez à Björn, il le sait peut-être. » De petits insectes ont dû l'accompagner depuis la forêt, et Pénélope se gratte frénétiquement le front. Mais Saga prend calmement ses mains. « Vous avez été poursuivi, » dit Saga. « Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être horrible. Mais nous devons savoir si vous pourriez identifier le tueur. » « Vous l'aviez déjà rencontré auparavant ?» Pénélope secoue imperceptiblement la tête. « C'est bien ce que nous pensions, » dit Saga. « Pourriez-vous nous donner un signalement, reconnaître un tatouage, des traits caractéristiques ?»« Non, » chuchote Pénélope. « Mais vous pourriez peut-être nous aider à dessiner un portrait robot. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour lancer une recherche via Interpol. » L'homme de la Rikskrim s'approche d'elle. Ses yeux gris clairs lui évoquent les pierres polies d'un ruisseau. « Il me semble que vous avez secoué la tête à l'instant, » dit-il d'une voix calme, « lorsque Saga vous a demandé si vous aviez déjà rencontré l'homme auparavant. C'est exact ?» Pénélope hoche la tête. « Alors vous avez dû le voir, » poursuit Yona d'une voix aimable. « Sinon vous ne pourriez pas savoir que vous ne l'avez jamais rencontré. » Pénélope regarde fixement devant elle en se souvenant comment le meurtrier donnait l'impression d'avoir tout le temps du monde, alors qu'en réalité, il se déplaçait à une vitesse incroyable. Elle se rappelle sa façon de s'agenouiller pour viser lorsqu'elle était harnachée au filin de l'hélicoptère. Elle le revoit lever son arme et tirer. Il n'y avait aucune hâte, aucune nervosité dans ses gestes. Et lorsqu'un éclair a illuminé son visage, leurs yeux se sont croisés. « Nous comprenons que vous ayez peur, » poursuit Yona. « Mais nous... » Il s'interrompt lorsqu'une infirmière fait irruption dans la chambre de Pénélope et l'informe qu'elle n'a pas encore pu joindre sa mère. « Elle n'est pas chez elle et ne répond pas au... » Pénélope pousse un gémissement et enfouit son visage dans l'oreiller. L'infirmière pose une main réconfortante sur son épaule. « Je ne veux pas, » dit Pénélope entre deux sanglots. « Je ne veux pas. » Une autre infirmière accourt et explique rapidement qu'elle va ajouter des anxiolytiques dans le cathéter. « Je dois vous demander de partir, » dit-elle à l'intention de Saga et Yona. « Nous reviendrons plus tard, » dit Yona. « Je crois savoir où se trouve votre mère. Je vais m'en occuper. » Pénélope a cessé de pleurer, mais sa respiration reste saccadée. Elle entend l'infirmière préparer la perfusion. La chambre ressemble à un cachot. Sa mère ne voudra jamais venir ici. Elle serre les dents et s'efforce de retenir ses larmes. Il est des instants où Pénélope a l'impression de se rappeler ses premières années. Il arrive que certaines odeurs, comme celle de la transpiration, la renvoient dans la cellule où elle est née, et des bribes de souvenirs remontent alors en elle. La lumière d'une torche balayant les visages des prisonniers, sa mère qui la confie à d'autres bras, une personne qui continue aussitôt à fredonner dans son oreille, tandis que sa mère disparaît entre deux gardiens.